vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Inès Gilles. Au sommaire, le président français Emmanuel Macron a apporté le soutien de la France à l'Algérie après les feux meurtriers dans le nord et l'est du pays. Le Rassemblement national promet d'interdire le voile dans l'espace public si Marine Le Pen est élue à la présidence. Les bombardements reprennent entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la première fois depuis un mois, entraînant une riposte iranienne. Bonjour, le bilan toujours incertain dans les feux en Algérie. Selon les chiffres officiels, au moins 12 personnes sont mortes en lien avec les violents incendies de forêt près de Béjaïa, Jijel et Tizi Ouzou. Mais des sources locales craignent que le nombre de victimes ne soit beaucoup plus élevé. Ces incendies meurtriers ont déclenché un débat national dans le pays. Le ministre algérien de l'Intérieur a expliqué que les vents violents et les températures élevées ont contribué à la propagation des incendies et ont entravé l'intervention des avions bombardiers d'eau. Face à la catastrophe, le président français Emmanuel Macron a apporté le soutien de la France et a fait part de la disponibilité de Paris pour aider l'Algérie. Un geste salué par Laurent Lardy, député PS des Bouches-du-Rhône, président du groupe d'amitié France-Algérie. On l'écoute.
Bien sûr, je pense que de toute façon, on a besoin de coopération. On voit que que la coopération sur la question des incendies, maintenant des fameux méga-feux, est de plus en plus étroite au niveau des autorités européennes. Je trouve qu'effectivement, c'est une bonne initiative de la part du président de la République de proposer cette coopération. Et je parle bien de coopération. Je parle de coopération parce que je pense qu'effectivement, la France peut aider l'Algérie, mais je pense que l'Algérie peut aussi aider la France. Dans la mesure où aujourd'hui ce qui se passe en Algérie est une conséquence directe du changement climatique, hein, du point de vue de l'intensité des incendies qu'il y a, et que nous avons beaucoup à apprendre des Algériens du point de vue de la manière avec laquelle eux gèrent ces températures tout à fait inhabituelles, ces assèchements, etc. J'en veux pour preuve la dernière étude, hein, qui date d'il n'y a pas très longtemps, d'un organisme international qui faisait des projections, si vous voulez, un petit peu pédagogiques pour les gens, pour leur expliquer les évolutions du climat dans le monde, et où il y avait une donnée, moi, qui m'a frappé, c'est de considérer que en 2050, Marseille devrait avoir à peu près le climat qu'il y a aujourd'hui à Alger. Donc aujourd'hui, s'inspirer de la manière avec laquelle Alger rature ses excès de température peut être plein d'enseignements pour une ville comme Marseille qui doit se préparer à affronter le même type de climat dans quelques dizaines d'années.
Laurent Lardy, député PS des Bouches-du-Rhône, président du groupe d'amitié France-Algérie. Il sera l'invité de Pluriel demain à 19h. Dans ce contexte, le président Tebboune a annoncé vouloir rétablir l'application de la peine de mort contre les pyromanes. En France, le Rassemblement national entre en campagne sur la question du voile. Le parti d'extrême droite envisage de sanctionner le port du voile islamique dans l'espace public par une amende s'il arrive au pouvoir. Une mesure annoncée par le député Jean-Philippe Tanguy, l'un des lieutenants de la candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Cette proposition a aujourd'hui déclenché de vives réactions. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une mesure ignoble et le gouvernement a émis des doutes sur l'applicabilité de cette promesse. On écoute Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.
La position du gouvernement, elle est connue. D'abord, il y a des réserves évidentes sur tant la constitutionnalité que l'applicabilité d'une telle mesure. Sur la constitutionnalité, on en a déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus, et sur l'applicabilité de la mise en œuvre de cette interdiction et d'une une amende qui irait avec. Par ailleurs, si la question devait être posée, elle devrait se poser pour l'ensemble des signes religieux visibles dans l'espace public, pas uniquement pour le voile.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Sébastien Lecornu a réuni lundi son gouvernement en séminaire pour mettre ses troupes en ordre de marche vers un budget 2027 à 8 mois de la présidentielle et demander d'accélérer la sécurisation cyber de l'État après les piratages de l'été. Dans l'actualité, au Moyen-Orient, des frappes israéliennes ont tué 5 personnes lundi dans la bande de Gaza, selon la défense civile et un hôpital du territoire palestinien. L'armée israélienne affirme avoir visé des membres de la branche armée du Hamas. Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis riposteraient aux attaques iraniennes contre des cibles américaines au Moyen-Orient, alors que la guerre a repris après un mois d'accalmie. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé de son côté qu'une poursuite de la guerre contre les États-Unis n'était pas dans l'intérêt de son pays. Le président libanais Joseph Aoun a demandé lundi l'aide de la Grèce pour l'application de l'accord cadre conclu entre Israël et le Liban fin juin sous l'égide des États-Unis. Le président Aoun a insisté sur le retrait total de l'occupation israélienne. En réponse, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a assuré qu'Athènes soutenait sans aucune réserve la souveraineté du Liban. Dans le reste de l'actualité internationale, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a écarté lundi toute implication du Maroc dans la crise migratoire de Ceuta, survenue fin juillet. Mais il a mis en cause la Russie, Israël et une internationale d'ultra-droite, je cite, dans la diffusion de fausses informations après l'afflux de migrants dans l'enclave espagnole. Israël a accusé ce lundi le premier ministre espagnol de mensonges éhontés. De retour en France, puis plus de 800 000 enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin. Ce sera demain pour les élèves. Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, professeure de philosophie, nous dit comment elle appréhende cette rentrée. Elle demande notamment une augmentation des salaires des enseignants.
Le jour de l'après-rentrée, on est surtout soucieux que tout soit bien prêt pour accueillir les élèves dès demain. Mais c'est vrai que c'est une rentrée particulière. C'est la dernière rentrée sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de faire un bilan des 10 dernières années dans le système éducatif. 10 dernières années qui laissent un système éducatif assez épuisé, je dirais, fragilisé. Et des enseignants qui sont souvent en colère des conditions qui leur sont faites. Et je pense en particulier au sujet des salaires.
Les salaires, hein, sachant que le salaire moyen d'un professeur, eh bien, cela va de 2340 euros à 4080 euros net par mois. C'est une moyenne et c'est une note d'information publiée par le ministère de l'Éducation nationale. Il indique qu'en moyenne, un enseignant français en 2024 percevait 3090 euros net par mois.
Oui, alors cette note est effectivement parue et il paraît la même note chaque année. Cette moyenne de 3090 euros, elle ne veut à peu près rien dire parce que justement c'est une moyenne et que ça ne tient pas compte de la démographie des enseignants et des enseignantes, c'est-à-dire qu'évidemment, au fur et à mesure de la carrière, la rémunération augmente et c'est une population qui est une population vieillissante. Ça fait d'ailleurs partie des problèmes qui sont devant nous en lien avec la crise d'attractivité, la crise de recrutement des enseignants, c'est que dans les années qui viennent, il va falloir recruter beaucoup d'enseignants pour faire face au départ à la retraite.
Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, elle sera l'invitée de Grand Angle ce soir à 18h. À la veille de la rentrée pour les élèves, coup de projecteur sur l'inclusion par le sport. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, revient au micro de Radio Orient sur les bienfaits de la pratique sportive, notamment pour la valorisation du vivre ensemble.
Pour moi, le sport, c'est finalement, à travers lui, ouvrir le champ des possibles. On ne s'imagine pas, par exemple, quand on va commencer à courir, être capable de faire progressivement une quinzaine de kilomètres et diminuer son temps pour le faire. C'est tout ça. Et ça démontre aussi qu'on ne va pas tous devenir, si on prend du foot, des Kylian Mbappé. On ne va pas tous devenir, si on prend d'autres sports, des performeurs, des grands athlètes, mais on va apprendre sur soi et ça va ouvrir beaucoup de choses. Et le sport aussi, c'est se croiser les uns et les autres.
Voilà, et ça c'est vraiment un élément fondamental, rencontrer l'autre qui parfois peut être différent, peut venir de différentes cultures, et c'est aussi en cela peut-être que le sport peut apporter en matière de citoyenneté quelque chose que d'autres institutions ne transmettent pas toujours.
Totalement, on le voit bien au moment de grands événements, on se retrouve aussi derrière le drapeau national. Alors dernièrement, ça a été la Coupe du Monde, ou ça a été les championnats d'Europe de natation, il y a une fierté, regardez les Jeux Olympiques, comment ça a transporté notre pays. Mais il y a ces grands temps, puis il y a le quotidien. Quand vous êtes dans un club de foot, là ça va être la rentrée justement sportive, associative, il y a avoir plein de nos concitoyens qui vont s'inscrire dans des clubs très très différents, et qui vont trouver effectivement des partenaires qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonnés, qui viennent de territoires différents, qui ont des métiers différents, qui ont des histoires différentes. Et donc, on se retrouve ensemble à ce moment-là. Donc, je crois que c'est un élément, effectivement, d'inclusion, de faire nation, qui est absolument essentiel de développer.
Et est-ce que l'accès au sport est suffisamment égalitaire aujourd'hui, notamment pour les jeunes gens dans les quartiers populaires? Vous êtes aujourd'hui à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise.
Mais vous savez, justement, quand j'étais au club de boxe tout à l'heure, j'ai rencontré des jeunes qui font effectivement de la boxe, évidemment, dans un club, mais certains faisaient de la natation, certains faisaient du rugby, un autre du football américain. D'ailleurs, le maire de Garges s'est interrogé en disant: on n'en a pas ça dans notre ville. Donc ça ouvre le champ des possibles. Donc je crois qu'il faut continuer, bien évidemment, à travailler sur les questions d'accessibilité. On le sait bien, il y a des sports, on va dire le ticket d'entrée, que ce soit en matière d'équipement, que ce soit beaucoup de choses, peut être plus cher. Mais je pense qu'aussi, souvent, on se met nos propres barrières. Parfois, on va spontanément se tourner vers le foot, majoritairement. Mais il y a d'autres sports collectifs, le hand, le basket, beaucoup de choses parfois qu'on ne pense pas soi-même. Et alors que dans de très nombreuses villes, ici je l'ai bien mesuré à Garges, le tissu associatif, le tissu sportif qui est proposé est très très large.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne. Elle sera l'invitée de Pluriel ce soir à 19h, émission présentée par François-Xavier de Calonne. Et puis, il avait brillé pour la France durant la Coupe du Monde. Bradley Barcola quitte le PSG pour Liverpool. C'est cette nouvelle transaction record à hauteur de 145 millions d'euros pour le départ d'un joueur de Ligue 1 à l'étranger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.